Escalade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
De Calais de ma radio, bonjour. Vous écoutez Couleurs du Monde, émission mensuelle, et nous arrivons au dernier numéro de la saison radiophonique, je dirais, hein, d'accord, l'émission estivale du mois de juillet, qui prélude à nos vacances. Enfin. Formidable. Et pour cette dernière émission de la saison radiophonique 2024-2025, nous allons parler de la science. Et d'une question, est-ce que la science est neutre ? Alors en fait, pour comprendre un peu pourquoi on veut parler de ça, je vais revenir un petit peu au discours médiatique qu'on entend partout, qui critique souvent le supposé militantisme de certains scientifiques. Est-ce qu'ils font de la science ? Est-ce qu'ils sont des politiques ? Ils décrédibiliseraient la science. Donc, il y a toujours ce débat sur la... Il faut que les scientifiques aient une position de neutralité, en quelque sorte. Et que s'ils en sortent, eh bien, ils ouvrent la porte à leur biais personnel. On a une position qui a été pensée scientifiquement par une sociologue qui s'appelle Nathalie Hennisch dans deux petits bouquins de collection Tract qui s'appelle « Ce que le militantisme fait à la recherche » et l'autre, c'est « Défendre l'autonomie du savoir ». C'est donc le socle de la position des critiques dont Nathalie Hennisch est une sorte de porte-parole, c'est l'affirmation de la nécessité d'une neutralité axiologique. De me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un truc bien connu des scientifiques et des enseignants. C'est Max Weber, un des sociologues qui a fondé la sociologie, qui a écrit dans les années 20 un texte qui s'appelait « Le savant et le politique », qui a parlé de neutralité axiologique, c'est-à-dire la nécessité de mettre à distance les valeurs, l'idéologie, comme préalable à toute production scientifique. Sinon, il n'y a pas de garantie d'objectivité, en quelque sorte. D'accord. Et donc, on a décidé un petit peu de creuser ce sujet. Quand je dis « on », je suis en compagnie de mon compère Jean-François La Technique. Salut Jean-François.
Salut à tous.
Et d'un invité que nous avions eu il y a environ un an pour une émission j'en étais assez satisfait, une émission quotient intellectuel inné acquis, le débat sans fin. C'est notre ami Édouard, notre professeur de sciences. Bonjour Édouard.
Bonjour aux auditeurs.
Merci de ton aide Édouard, de nous amener tes compétences scientifiques.
C'est un plaisir.
Alors, dans cette émission, on va faire trois parties. La première partie, on va mettre constat et exemple d'une science non neutre. Dans une deuxième partie, on va se poser une question. En fait, c'est quoi la science et est-ce qu'elle peut vraiment être neutre ? Et enfin, dans une troisième partie, on va explorer les points de faiblesse de la science, les biais que peut avoir la science. Bon, écoutez, ça me paraît être un bon menu. On va y aller le temps d'une petite virgule.
Calade.
Les couleurs du monde.
On commence donc par une première partie, constat exemple d'une science non neutre, et pour cela, on va faire travailler notre invité Édouard. Édouard, nous t'écoutons.
Merci. Déjà, quand on parle de la science, on parle de quoi ? De l'ensemble des connaissances acquises par la recherche. Et en fait, comment ces connaissances sont transmises ? Vous en avez une idée ?
Transmises, tu veux dire au grand public ou entre scientifiques ?
Les deux.
Par des papiers scientifiques par de la vulgarisation.
Oui, c'est ça. Alors oui, ça commence effectivement par des articles de recherche. Et en fait, dans la recherche, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut publier.
Ouais, voilà, ouais.
On parle souvent de « publish or perish ».
Qui en français veut dire « publier ou mourir ».
Publier ou mourir. Et donc, les chercheurs sont tenus à ces publications dans les revues. Ouais. Et il existe plusieurs modes de publication. Alors, ça peut être du simple article de recherche, un article d'opinion. Et le Graal, en fait, dans la pyramide des savoirs, c'est la méta-analyse.
D'accord.
On réplique un protocole plusieurs fois et on voit et on essaye d'avoir les mêmes résultats.
Alors, voilà. La méta-analyse, c'est une analyse qui porte sur un grand nombre de recherches scientifiques qui portaient sur le même sujet et qui fait une sorte de point global. C'est un peu ça pour simplifier.
C'est ça.
Ok.
Et si on arrive à la même conclusion, on arrive à une connaissance. Donc, des méta-analyses, vous en connaissez peut-être quelques-unes. Alors, si dans la même phrase, je vous dis environnement, changement climatique.
Ah bah, je pense qu'il y a matière à faire des méta-analyses là, dans ce
domaine. Il y en a une qui est publiée tous les 5 à 7 ans.
Je ne les ai pas en tête, c'est toi le scientifique, je te rappelle, Edouard.
Les rapports du GIEC.
C'est pas nous.
Oui, notre professeur d'histoire-géographie.
Ah, d'accord, ok.
Les rapports du GIEC, oui, c'est ça, publié.
C'est-à-dire que le GIEC, c'est une sorte de, son rapport, c'est une sorte de gigantesque méta-analyse.
Oui, alors. En quelque sorte,
d'accord,
oui.
Okay, très bien.
Ils agglomèrent des milliers de données, de milliers de chercheurs.
Enfin, intéressant. Voilà.
Et ces rapports, il y en a 3 en fait, se veulent le plus objectif possible. On aura du mal à les qualifier de militants ou de, d'orientés, même si les détracteurs ont...
Il y a toujours des détracteurs.
Il y en a quand même. Ouais. Bon. En tout cas, ces rapports servent de base dans les discussions sur les conférences
Totalement.
Pour le climat, les COP. Une autre méta-analyse que je ne suis pas sûr que vous connaissez, le One Ocean Science.
Non, je suis sûr que ça parle d'océan.
Bah, c'est dans le titre. Mais alors, ce rapport, il a été produit par 2000 scientifiques du monde entier,
quand même.
Réunis en congrès à Nice au début du mois de juin.
Alors, vous c'est récent.
Oui, c'est récent.
D'accord.
Mais vous avez peut-être entendu parler plutôt de la réunion des Nations Unies, qui elle a lieu après.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire les scientifiques se réunissent avant pour proposer en fait des recommandations sur l'état et la protection des océans.
Un point sur la connaissance et des recommandations, une base de travail.
C'est ça, pour l'UNOC.
D'accord.
Mais sauf qu'en fait, les scientifiques se sont réunis et certains ont même ont refusé d'y aller.
Ah bon ?
Ben, parce qu'en fait, on a des témoignages qui disent que ils savent que leur message ne sera pas entendu. C'est-à-dire que ce qui a été fait par le président Macron, c'est des
D'accord.
annonces.
Ouais, okay.
L'état des connaissances n'a pas été relayé dans la presse, et donc les messages n'ont pas été relayés ni même appliqués.
Donc certains disent c'est une mascarade, j'y vais pas.
C'est ça.
Wow.
C'est ça. Donc, dans ce cas-là, comment les scientifiques font-ils pour se faire entendre ? Comment prendre la parole si le message est brouillé ? Alors, on va faire un petit tour d'horizon de l'engagement des scientifiques pour faire passer des messages autres que dans des papiers et dans des congrès. Alors, le premier, c'est tout simplement s'engager dans un collectif. Alors, le plus grand collectif de chercheurs en France, c'est les scientifiques en rébellion.
Oui, j'en ai entendu parler, voilà.
Donc, peut-être vous en avez entendu parler.
Puis le terme rébellion rigole pas,
Voilà. Ça fait peur.
Ouais.
On va voir ce qu'ils font. Donc, c'est un groupe de chercheurs frustrés par l'inaction climatique. Ils participent à des actions de sensibilisation. Ils publient des tribunes. Ils soutiennent des actions. Ils vont en justice.
D'accord.
Ils subissent des actions en justice aussi.
Ouais.
Et parfois, s'associent à des formes de désobéissance civile.
Okay. Ouais.
Alors, exemple de ces actions, tout récemment encore, avril 2025, le Parlement étudie le projet de loi pour réautoriser les néonicotinoïdes.
Oui.
Les fameux pesticides de tueurs d'abeilles, entre guillemets, parce qu'ils ne tuent pas que les abeilles.
Ils doivent tuer plein de trucs en même temps.
C'est pas très bon. Quoi.
Faut un prix de gros.
Donc, le collectif, en fait, il se joint à la manifestation et il se joint à 80 autres organisations pour demander le maintien de l'interdiction.
D'accord.
À raison, puisque ces néonicotinoïdes sont quand même impliqués dans une perte de biodiversité. Un autre exemple de désobéissance civile, le collectif participe au soulèvement de la recherche.
Ah, d'accord.
Toujours
fait référence au soulèvement de la Terre, ce fameux mouvement qui est une sorte d'agrégation de divers mouvements, je crois.
Oui, c'est ça. C'est les soulèvements de la Terre, c'est pour le collectif citoyen. Eux, ils sont collectif scientifique. Et eux, ils occupent non pas des autoroutes ou des sites à construire, ils occupent les musées.
D'accord.
Donc, ils ont occupé le Muséum national d'histoire naturelle.
D'accord.
Je crois avoir entendu parler. Oui.
Voilà. Mais ils n'ont pas fait une ZAD dans le musée, je vous rassure. Ils ont occupé le musée pour présenter des actions, montrer un engagement concret dans les solutions qu'on peut apporter contre le réchauffement climatique.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'était une première manière. Une deuxième manière de s'engager, ça va être sur les réseaux sociaux. Vous avez plusieurs chercheurs qui pensent qu'en fait, la bataille des idées, elle se fait aujourd'hui sur Internet.
Ouais.
Et donc, je vous parlais précédemment du GIEC. Il faut savoir qu'une des coprésidentes d'un des groupes de travail, Madame Valérie Masson-Delmotte,
assez connue quand même.
Assez connue et fortement impliquée.
Une forte figure scientifique.
Oui, elle faisait partie des 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine Times en 2022. Et donc, elle publie... Alors, c'est pas récent, en fait, son engagement. Ça date dès 2010. Avec l'appel des 600, elle lance une demande aux instances scientifiques et politiques de condamner les positions climato-sceptiques de Claude Allègre et Courtillot.
Oui.
Voilà. Et plus récemment, elle s'engage au ministère de l'Éducation nationale afin que soit mieux abordée la problématique du changement climatique et de la responsabilité humaine. Et aujourd'hui, concrètement, dans les programmes, cette notion-là fait une part belle et je l'enseigne personnellement au lycée.
D'accord. En AGGSP aussi.
Voilà.
D'accord. Donc, elle est à la source de la vulgarisation via l'éducation nationale.
Voilà. Et elle continue son action sur les réseaux, Twitter, Blue Sky et autres. Alors, à ses côtés, un autre personnage un petit peu iconique par le style de cow-boy, peut-être que vous le connaissez, du moins, voilà, Monsieur Serge Zaka.
Ah oui, ah, oui
pas du tout. Moi, si, je ne si, connais pas. Ouais. Moi.
Ouais, alors, vous irez voir
très
une.
Présent sur les réseaux sociaux.
Oui, très très présent. Voilà. Donc lui, il est ingénieur agronome, agroclimatologue, et à partir de 2021, donc post-Covid, il intensifie sa présence parce qu'il remarque effectivement les discours climato-sceptiques, on le voit en poupe. Mmh. Et lui, il sort clairement de son rôle de chercheur pour aller dans les médias. Et
aller au baston.
Ouais, il y va.
Ouais.
Mais c'est pas sans conséquence, hein, on est d'accord, parce que en général, quand on s'engage sur Internet, on a
une shitstorm en retour, comme on dit en anglais.
Ou du cyberharcèlement, et c'est pas cool.
Etc. Ouais.
Voilà. Et enfin, un dernier point, on peut participer à des ateliers d'écologie politique.
Ouais, d'accord.
Voilà, donc ça, c'est, ça, par exemple, c'est les projets Atécopole à Toulouse ou La Fabrique des questions simples à Lyon, où en fait c'est des groupes de discussion, mais c'est pas pour produire du savoir, c'est pour partager des savoirs et les
d'accord.
rendre opérants.
Ouais, ouais.
Comment on peut aujourd'hui, avec un savoir scientifique, l'intégrer dans nos sociétés, l'intégrer
d'accord.
dans notre mode
dans
de
nos
vie.
Vies, nos pratiques, etc., etc.
C'est ça. Et donc leur objectif, au travers de tous ces groupes, c'est de produire un programme qui s'appelle Horizontaire.
Ouais.
Donc on vous mettra le lien sur le site. Mmh. Horizontaire, c'est très facile. Ce projet vise à réorienter la recherche dans les limites du respect planétaire. Il prône donc une implication démocratique, ce qu'on appelle les conventions citoyennes. Il n'y a pas que celle voulue par le président, il y a des conventions citoyennes qui peuvent se faire.
Ouais.
Implication de la société civile et encourager des programmes ancrés dans la sobriété, la solidarité et la transition écologique et sociale. Donc, au travers de ces trois grandes figures, trois grands exemples, on voit bien qu'il y a d'autres moyens que la publication scientifique, finalement, pour se faire entendre.
Ouais.
Mais on reste dans son domaine de compétences.
Oui, tout à fait.
Et en fait, on s'engage.
Mais tout à fait.
Est-ce qu'on a vraiment défini l'engagement, du coup ?
Ben, merci de me faire cette petite passe de la balle. On va pouvoir rebondir là-dessus. On voit bien, à travers les exemples que tu as cités, que certains peuvent faire l'objet de des critiques que j'avais évoquées en introduction d'une Nathalie Henisch et compagnie. Et en tout cas, on voit bien, à travers les exemples que tu nous as donc présentés, que les scientifiques font le choix, des scientifiques, soyons précis, des scientifiques font le choix de s'engager. Exactement. On va préférer donc le mot d'engagement au mot de militer ou militantisme parce que ce terme est plus large et permet de couvrir un spectre plus important de comportement. Donc, à la suite logique de ce que tu viens de nous présenter, Edouard, on va se poser la question dans ma petite partie à moi de cette partie 1. Qu'est-ce que c'est que l'engagement des scientifiques ? Pour information, je me base sur une vidéo d'une chaîne qui s'appelle l'Argumentarium, qui est extrêmement intéressante, que je mettrai en lien. Et cette vidéo, elle se fonde sur deux documents importants. Le premier, c'est un rapport du comité d'éthique du CNRS, qu'on appelle le COMETS, qui a été publié en juillet 2023. Et le sujet, le titre, c'était « Entre liberté et responsabilité, l'engagement public des chercheurs et des chercheuses ». Et il s'est appuyé aussi sur une journée d'études à l'Université de Lausanne, dont le thème était « Engagement public et crédibilité de la science ». Voilà.
Alors pour commencer à bien comprendre les choses, Patrick, est-ce que tu pourrais commencer par nous définir ce qu'est l'engagement d'un côté et en même temps ce qu'est le militantisme ?
Voilà, on va essayer d'apporter un peu des définitions, de creuser un peu ce que tu nous as présenté, Edouard, sur un plan factuel. Définissons les termes, on va y aller. Militantisme, c'est une action citoyenne pour une cause indépendamment d'une activité professionnelle. Ouais. D'accord ? Tandis qu'engagement, c'est une pratique qui découle de l'activité professionnelle d'une personne. D'accord ? Donc la personne est détentrice pour ce qui nous intéresse d'un savoir scientifique et elle va l'utiliser dans une forme d'engagement. Donc on pourrait dire quelque part que le militantisme est une sorte d'à côté ou d'aspect particulier de l'engagement et que la problématique globale, c'est vraiment la notion d'engagement.
Okay. Donc si je comprends bien, on va détailler maintenant ce qu'est l'engagement pour les scientifiques.
Je vous propose, alors quand je dis « je », c'est le COMETS, donc le comité d'éthique du CNRS, propose trois catégories d'engagement. Un, l'engagement pour la diffusion des sciences, qui est vraiment très basique, très descriptif, d'accord, le scientifique explique, fait de la vulgarisation. Deux, l'engagement citoyen dans la vie associative, ou la vie syndicale, ou la vie politique, et là, ça peut aller vers des directions qui n'auraient pas de rapport direct avec la science. Et trois, l'engagement public ou politique en tant que scientifique pour apporter ses compétences pour aider le politique, c'est-à-dire la prise de décision. Donc si on voit, il y a un peu un aspect dans la première catégorie d'engagement pour la diffusion des sciences strictement descriptif, tandis que dans la troisième, engagement public, on va vers le prescriptif, c'est-à-dire proposer des actions possibles. Et le rapport du COMES que j'ai cité et sur lequel on se fonde va s'intéresser à cette troisième catégorie, c'est-à-dire l'engagement public, d'accord ? Et le COMETS, lui, considère que ce n'est pas en contradiction, cet engagement public, avec l'activité des scientifiques. Donc, ça mélange un peu, cette catégorie-là, le descriptif et le prescriptif, d'accord, clairement.
Ouais, c'est assez étonnant, quand même, de la part de cette commission scientifique, quand même, parce que on attendrait quand même plutôt d'eux qu'ils différencient clairement ce qui relève vraiment de la science de ce qui relève du politique.
Ouais, nous, on est prof, on aime bien les choses claires. Ouais. Alors, on sépare, on simplifie. Le Gambier, après, on leur dit non, mais en fait, en vrai, c'est bien plus compliqué que ça. C'est assez souvent que je leur fais le coup. Malheureusement, c'est la vérité. Et c'est vrai, tu as raison, mais il y a une raison pour ça, pour le fait que le COMETS ne fasse pas cette séparation. C'est parce que cette séparation n'est jamais claire dans les faits. Voilà. Le politique a souvent, sur plein de sujets, besoin de la science pour prendre des décisions. Et la science a besoin du politique pour orienter la recherche, ne serait-ce que ça, quoi.
Ah, mais du coup, ça renforce encore l'exigence que l'on peut avoir vis-à-vis des scientifiques de tenir vraiment une posture neutre qui, quand ils prennent la parole dans l'espace public.
Et, et on attend des scientifiques qui soient neutres, hein, bien sûr, bien sûr. Sauf que, tout ça, c'est très illusoire. La notion de neutralité est illusoire. Pourquoi ? Alors, pourquoi déjà, on le sait, depuis le XXIe siècle, depuis 20-25 ans, les scientifiques sont beaucoup plus sollicités qu'avant par l'espace médiatique, ne serait-ce qu'avec l'explosion d'espace médiatique via Internet. Ils sont donc très fréquemment en situation d'intervention publique dans cet espace et on leur demande d'aider à la prise de décision, d'orienter les choix. C'est une demande qui émane de la société civile, de l'espace médiatique. Mais à côté, à leur contradiction, on dira oui, mais faut que vous restiez neutre. C'est le problème. L'espace public n'est jamais neutre.
Il n'est jamais neutre.
Non, il n'est pas neutre, l'espace public. Même quand un scientifique se limite à des énoncés factuels, son discours peut très bien être perçu comme non neutre parce qu'il va être dans un lieu où les positions ne sont pas du tout celles-ci. Hein. Ceux qui écoutent un peu, je ne sais pas moi, BFM ou CNews comprennent un petit peu de quoi on parle.
Ouais, d'accord. Alors finalement, ça donne quoi les conclusions de la commission du CNRS, le COMETS, et celles du rapport de l'Université de Lausanne ?
Eh bien, en gros, il parle du fait que demander aux scientifiques de faire en permanence une stricte distinction entre descriptif et prescriptif, c'est impossible. Donc, disent le COMETS et l'Université de Lausanne, les scientifiques doivent réfléchir aux limites qu'ils doivent s'imposer à eux-mêmes. Un, ne pas abuser de leur position de pouvoir en tant que scientifique, ce qui est normal. Deux, éviter donc, ça, c'est un peu lié, les arguments d'autorité. Trois, être conscient qu'ils soient conscients que leur légitimité n'est pas une légitimité. Une légitimité démocratique. Ouais, ça, c'est le politique, ça.
Ils ne sont pas élus, eux.
Ouais, leur légitimité, elle est, attention au mot contre triple, épistocratique. Le pouvoir détenu par ceux qui savent. Mais c'est aux politiques de décider. C'est eux, parce que c'est eux qui sont responsables de leur choix devant les citoyens. Ouais. D'accord ? Bon, donc les scientifiques ont quand même une responsabilité vis-à-vis des citoyens, celle d'informer et d'éclairer les citoyens.
Alors, je te propose maintenant de remonter un peu dans le temps. On peut observer ainsi que les positions des scientifiques se sont clarifiées après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît ?
Je sais pas, il s'est passé un petit truc, là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au Japon, là, qui a fait boom deux fois. Et là, ça a beaucoup fait changer un certain nombre de scientifiques. Et sont apparus très nettement deux courants chez les scientifiques. Un courant traditionnel qui existait avant, qui dit « c'est pas aux scientifiques de se prononcer sur l'usage que fait le politique des connaissances que nous produisons, la science doit rester neutre, blablabla », donc vision traditionnelle, mais surtout a émergé un deuxième camp qui dit, les scientifiques disent « nous avons une responsabilité éthique vis-à-vis des usages et des mésusages des connaissances que nous produisons ». Et donc, clairement, ce deuxième camp est plutôt assimilé à la gauche, le premier camp est plutôt assimilé à la droite. En tout cas, ils s'accordent tous sur un point majeur, quel que soit le camp dans lequel ils se reconnaissent, l'idée que c'est aux politiques de prendre les décisions. D'accord ? Donc, on peut considérer que c'est dans le but explicite d'influencer les politiques que le deuxième camp s'est constitué, parce que les scientifiques de ce courant estiment qu'il est de leur responsabilité éthique de le faire.
Ok, alors pour... Tu peux nous faire une petite conclusion quand même de cette partie sur l'engagement des scientifiques ?
On va récapituler et synthétiser. Super. L'engagement public des scientifiques est légitime et n'est pas en contradiction avec la pratique scientifique. Premier point. L'exigence de séparation du prescriptif et du descriptif est une illusion, hein, du fait des demandes de la société civile faites aux scientifiques. Cette exigence de neutralité est rendue illusoire par l'impossible neutralité des lieux publics et médiatiques, où le scientifique intervient. Certains scientifiques ont donc sciemment choisi de se positionner comme ayant une responsabilité éthique, et ils s'engagent publiquement pour assumer cette responsabilité, comme Edouard nous l'a bien montré dans la partie précédente. quand leurs collègues plus traditionnels restreignent leur vision du rôle du scientifique à un rôle purement descriptif.
Alors, ce débat entre ces deux catégories de scientifiques me fait penser quand même à la notion de neutralité axiologique dont tu parlais en introduction et qu'on connaît bien dans l'enseignement également.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est cette mystérieuse notion qu'on doit à Max Weber, donc qu'on va creuser. Mais ce que je vous propose, c'est de l'intégrer dans un questionnement un petit peu plus large que j'ai résumé à travers le titre de la partie 2. Qu'est-ce que la science? Et la science peut-elle être neutre? Mais si on se mettait une petite virgule avant...
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler. Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi, l'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs sur la même route, forcés de quitter leur terre, coûte que coûte. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. C'est l'appel des étoiles dans la ville folle, a changé mon destin d'homme parmi les hommes. Retrouver l'essentiel après des années, quand les marchands de sable veulent te faire oublier. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Tu as entre tes mains le soleil de demain.
Vous écoutez Couleurs du Monde sur Caladma Radio, notre émission mensuelle, la dernière de cette saison radiophonique, est consacrée à la science. Peut-elle être neutre? Est-elle neutre? Et nous venons d'écouter Trio, le groupe Trio, elle est bien bonne, sur un titre qui s'appelle La Planète.
Ils sont quatre.
Ils sont quatre. Voilà. Tant pour moi, je dis des bêtises. Titre proposé par Edouard, notre invité, donc notre scientifique du jour. Pour cette émission. Donc, dans une première partie, on a vu des exemples un petit peu de scientifiques non neutres. On a réfléchi sur la notion d'engagement et on en est là.
Galade.
Les couleurs du monde.
Alors, Patrick, après tout ce qu'on a dit dans les parties précédentes, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire une science neutre?
Eh bien, on va essayer de répondre. Ce serait une science capable de produire des connaissances qui serait dépourvu de valeurs, dépourvu de normes sociales, de normes morales ou de normes politiques, qui serait capable de décrire la réalité indépendamment de l'opinion, de l'idéologie des scientifiques, voire même indépendamment des scientifiques.
Ouh là là, ça va pas être facile tout ça.
Non, c'est pas facile du tout, tu as tout à fait raison. Déjà, on va commencer par le commencement, on va essayer de faire une différence entre ce qui est d'un côté un fait ou une connaissance, et de l'autre côté, une opinion ou une croyance.
Ouais. Okay.
Et pour ça, on va parler épistémologie, encore un mot compte triple, c'est-à-dire la discipline qui s'intéresse à la façon dont la pensée scientifique se construit. Et en épistémologie, il y a une notion qui s'appelle le trilemme d'Agrippa. On en apprend des choses dans cette émission. Et ce trilemme d'Agrippa répond à cette question. Pour différencier la connaissance d'une opinion, la connaissance doit s'appuyer sur une autre connaissance que l'on a reconnue comme vraie, et qui sera une sorte de preuve en quelque sorte. Et là, vous me voyez venir. Comment on s'assure que cette autre connaissance soit vraie également ? Un exemple. Je dis, je sais que la Terre tourne autour du Soleil, c'est mon prof de physique qui me l'a dit en cours. Qu'est-ce qu'on peut me répondre ?
Bah, d'accord, mais qui nous dit qu'il ne raconte pas des conneries, ton prof de physique ?
Alors, toi, je te retiens, toi. Parce qu'il a un master en physique, figure-toi.
Ah, mais qui nous dit que son master lui a permis de bien maîtriser les récentes avancées scientifiques en physique.
Et ainsi de suite. Ouais. Ça peut continuer longtemps, cette histoire. Hein. D'accord ? On se retrouve devant le vertige d'une chaîne de justification nécessaire, mais potentiellement infinie. Or, nous ne sommes pas des elfes de Tolkien. Nous n'avons pas la vie éternelle. Nous, donc, il va falloir trouver une solution. Et il y a trois issues possibles à ce problème. Première issue possible, si on est des elfes et on justifie à l'infini, on n'a que ça à foutre.
Ou si on a le temps.
Voilà, on a le temps. Mais nous ne sommes pas des elfes, donc on va voir les deux autres. Deuxième solution possible, un système de connaissances autoréférentielles. A s'appuie sur B, B s'appuie sur C, et C s'appuie sur A, et le tour est joué, je t'embrouille. Pas terrible non plus. Soit, en fait, on décide de s'arrêter à un certain niveau de justification. Et cette troisième solution, qui semble la plus acceptable, on l'appelle en épistémologie l'arrêt dogmatique.
Ouais, alors, c'est quand même un petit peu gênant, non ? Comment on justifie cet arrêt dogmatique ?
Ouais, déjà, le terme dogmatique, il donne
voilà,
pas envie.
Ça, ouais, exactement.
On peut justifier ça de quatre façons possibles. Soit, un, on a constaté nous-mêmes les faits directement, on appelle ça l'arrêt empirique,
okay,
mais c'est pas le plus fréquent.
Okay.
Voilà. Mais si, je l'ai vu.
Ouais.
Deux, on a confiance dans la personne ou l'institution à qui on fait référence. C'est un arrêt par confiance dans un tiers. C'est assez fréquent, c'est même très fréquent. Trois, on en a marre, tu commences à me saouler et on s'arrête, c'est l'arrêt par flemme.
Okay.
Et quatre, eh ben en fait, et souvent, quatre, c'est caché derrière les autres, on est motivé par des considérations idéologiques. Gardez en tête, mes auditeurs de Canada Radio, que idéologique, c'est pas spécialement négatif comme terme. Je m'arrête là parce que c'est conforme à mes valeurs, à mes croyances. C'est un arrêt par conviction, en quelque sorte.
Donc, une fois qu'on t'a écouté, on pourrait à la limite dire que nous ne savons jamais rien dans l'absolu.
Exactement. Ouais. Et là, bonjour dans le vertige, hein, quand on creuse la question. On ne sait jamais rien dans l'absolu. On doit toujours en passer à un moment par l'arrêt dogmatique. Et c'est le plus souvent un arrêt, même si on n'en a pas conscience, un arrêt dogmatique par conviction. Notre savoir est donc la plupart du temps relatif à nos convictions, nos valeurs et nos croyances.
Ok, donc cette réflexion que tu viens de nous présenter, c'est ce qu'on appelle le trilemme d'Agrippa. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'appliquer à chacun d'entre nous
tout
dans
à fait.
La vie courante.
Ça, c'est le côté très intéressant, ouais. Ouais, tout à fait.
Mais alors, est-ce que la science n'apporte pas, en raison de son mode de fonctionnement, des éléments plus solides dans la construction du savoir ?
Faut espérer quand même, messieurs, dames. La science, quand même, la science, elle a un plus. Elle propose une méthode, la méthode scientifique. Bon, on va faire simple, hein, on ne va pas faire compliqué, sinon il faudrait plusieurs heures d'émission.
Ouais.
C'est la méthode hypothético-déductive. Je pose une hypothèse et je la vérifie par une expérience. Et attention, une expérience qui peut confirmer l'hypothèse, mais qui doit pouvoir la réfuter
également. Ouais,
sinon, ce n'est pas de la science, c'est de la psychanalyse. Un petit scud en passant. Ce n'est pas moi qui disais ça, c'est Karl Popper. Il disait que la psychanalyse est une pseudo-science pour cette raison-là. Fin du scud. Donc,
oui, c'est le fameux critère de Popper.
Ouais, la réfutabilité.
La réfutabilité.
Tout à fait.
On pourrait en faire une émission, d'ailleurs.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Un peu compliqué.
On peut rassembler ça dans un terme, O-H-E-R-I-C,
Oula.
Procédé mémotechnique.
O-R-I-C.
Observation.
C'est mieux.
Hypothèse, expérience, résultat, interprétation. Il connaît ça, Edouard. Edouard, pardon. Le problème avec cette chouette méthode scientifique, en fait, c'est que l'idéologie et les croyances peuvent se glisser dans plein d'endroits. Ils peuvent se glisser dans les observations, le O, dans les hypothèses, le H, dans l'interprétation, le I, d'accord, voire même dans les parties d'expérience, hein. Ça, c'est terrible, ça.
On va en parler après.
Ouais. Hein. Et Edouard va nous éclairer là-dessus dans la partie suivante. Il nous donnera tout un tas d'illustrations de ces problèmes pratiques dans la méthode scientifique. Et les outils, c'est pareil. Les outils d'analyse, les outils d'expérience, c'est la même chose. Ils sont sujets à caution également. À toutes les étapes, on retrouve les difficultés soulevées par le trilemme d'Agrippa.
Ouais, c'est quand même pas très rassurant ce que tu nous dis là. Hein,
mais... ouais.
Bon, la science a quand même un point fort, qu'on néglige d'ailleurs souvent, c'est sa dimension collective.
Oui, oui, Didier Raoult n'était pas d'accord. Il disait, non, c'est moi qui fais tout seul. Non, tu mens, Didier. C'est collectif, la science, une production collective. Chaque étape de la production scientifique est fondée. Ah, et en plus, en plus, hein, en plus de ça, Chaque étape de la production est fondée par une évaluation collective par les pairs, PEIRS, hein, d'accord ? Et c'est une procédure qui ne rigole pas. Ça incite tout scientifique à la modestie quand ils se sont fait tailler en petits morceaux par leurs pairs quand ils ont analysé les travaux, d'accord ? Mais il faut vraiment avoir conscience que cette dimension collective, c'est peut-être la dimension la plus représentative du génie de l'espèce humaine. C'est ce qui a permis à l'espèce humaine d'abord de survivre et ensuite de progresser irrésistiblement. C'est le collectif qui a permis ça. Alors c'est vrai, hein, ça passe par des débats, des confrontations, ça rigole pas trop, mais ça finit toujours, tôt ou tard, par faire émerger une forme de consensus. C'est ça la science. Bon, on a compris avec ce qu'on a dit précédemment que ce système n'est pas exempt de tout reproche, et Edouard nous en dira un peu plus dans pas longtemps.
Ok, donc là, on a donc vu que la méthode scientifique, c'est pas complètement étanche vis-à-vis des valeurs, hein, ou des croyances. On a vu également que la dimension collective de la science est un très gros atout, mais finalement, on en revient encore et toujours à la question suivante. Le processus scientifique est-il en mesure d'assurer vraiment la déconnexion entre valeurs, opinions, croyances d'un côté et faits, connaissances de l'autre ?
Vous savez, dans les rêves, quand on court, des fois, on court, puis en fait, on n'avance pas. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, je rêve. Bah, nous, c'est pareil, là. On court, mais on n'avance pas dans cette émission. Et donc, c'est là qu'on va en venir à parler de Max Weber. Hein, à ce moment du débat historique, on est dans les années 20, au début du 20e siècle. Max Weber, donc sociologue, fondateur de la sociologie en tant que science, affirme dans un texte la nécessité pour le scientifique d'une forme de neutralité permanente.
Ah, enfin, tu vas nous parler de la neutralité axiologique,
ouais,
Patrick.
Ouais, voilà, donc... J'explique d'abord la définition de départ de ce terme neutralité axiologique. Ce serait la nécessité de mettre à distance les valeurs et l'idéologie de chaque enseignant ou de chaque scientifique comme préalable à toute production ou transmission scientifique. Comprenez bien, auditeurs de Calade Maradio, que c'est cette notion qui est reprise systématiquement par ceux que j'ai évoqués dans l'introduction, qui critiquent l'engagement de certains scientifiques. J'ai évoqué Nathalie Hennich, la sociologue, hein, d'accord, qui a fait ces deux petits bouquins. Et donc, ils remettent en cause, ces gens-là remettent en cause la deuxième catégorie de scientifiques que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui estiment qu'ils ont une responsabilité éthique vis-à-vis des usages et mésusages des connaissances qu'ils produisent. Dans l'idée de ces gens-là, Nathalie Hennich et consorts, la science doit être maintenue à distance de l'idéologie pour éviter qu'elle soit contaminée, quoi. Petit problème.
C'est pas du tout ce qu'avait dit Max Weber.
Exactement, hein. Max Weber n'a jamais dit ça. Alors là, on se dit, qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? On nous a menti ? En fait, c'est un contresens sur la traduction d'un mot allemand qu'utilise, parce que Weber est allemand, texte est en allemand, et dans son texte, il y a un mot allemand qui est « Wertfreiheit ». Je ne parle pas allemand, mais je suis assez fier de mon accent.
Hein,
t'as vu, hein, trop fort. La bonne traduction de « Wertfreiheit », ce n'est pas neutralité axiologique, c'est « absence de jugement de valeur ». En fait, la mauvaise traduction vient du fait que le texte a d'abord été traduit en anglais. Mauvaise traduction en anglais, donc traduction en français, qui n'était pas terrible.
Donc il faut toujours lire les œuvres originales ?
Oui, on va dire ça, il faut apprendre l'allemand, donc bon, ça sera sans moi, hein, merci. En tout cas, la nouvelle traductrice, parce qu'il y a des gens qui font ça bien, hein, donc on peut aussi faire confiance, Isabelle Kalinowski, elle dit que ce que ce mot allemand questionne, ce n'est pas l'existence de valeur, mais l'usage possiblement malhonnête qui est fait de certaines valeurs quand elles sont masquées, messieurs, dames. Quand elles ne sont pas présentées comme des valeurs, alors qu'elles devraient être explicites et assumées.
Donc si je comprends bien, pour Max Weber, le problème n'est donc pas que les scientifiques soient militants ou porteurs de valeurs, mais c'est que certains dissimulent leurs valeurs sous couvert de neutralité scientifique.
Exactement. Okay. On est tous, scientifiques compris, porteurs de valeurs. Mais certains les planquent sous un couvert d'une pseudo-neutralité scientifique. Vas-y, répète ça, c'est trop important, Jean-François.
Donc le problème n'est donc pas que les scientifiques soient militants ou porteurs de valeurs, mais c'est que certains dissimulent leurs valeurs sous couvert de neutralité scientifique, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Alors, petit rappel, donc dans ce texte, il a été publié dans les années 20 en Allemagne, puis donc Max Weber était prof d'université en Allemagne, bah, il disait, ça serait très bien qu'on embauche dans l'université où il travaille un prof de droit anarchiste. À l'époque, les anarchistes, ils n'avaient pas bonne presse.
Hein. Bah, non, pas trop.
Pourquoi ? Bah, parce qu'il aurait une position de côté qui apporterait aux étudiants une nouvelle perspective quand les profs classiques ne voient pas les biais qui sont acceptés par tout le monde.
Attends, donc, tout ce que tu nous dis depuis 80 ans sur la neutralité axiologique en France est faux.
Exactement, c'est quand même fort de café, ça, hein, moi je trouve. Alors, petite explication rapide, cette version donc erronée de Wertfreiheit, neutralité axiologique, a été imposée en France, notamment et principalement par Raymond Aron, qui était un sociologue et politologue célèbre hein, des ouais. années 40, 50, 60, 70. Je crois qu'il est mort dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il faisait ça dans le but de remettre en cause les positions à gauche des Sartre et compagnie et de tous les marxistes qui occupaient pas mal le champ médiatique dans les années 40 et 50.
Alors que Luc même était quand même politiquement très engagé. Hein, il était libéral et anticommuniste.
C'est ça. Il était dans ouais. une position de pseudo-neutralité alors qu'il était tout sauf neutre. Et là, on peut revenir à Nathalie Hennig qui défend donc... une position critique de l'engagement scientifique au nom de cette neutralité axiologique mal comprise. Alors, vous allez voir, je vais vous mettre sur le podcast la page Wikipédia de Nathalie Hennig et vous irez dans la partie prise de position. Et vous allez voir ce que c'est que la pseudo-neutralité de Nathalie Hennig. Pour information, dans le texte où il définit cette notion de Wahrfreiheit, Max Weber, il visait directement ses confrères de la chaire de droit qui, disait-il, ont une idéologie nationaliste et réactionnaire et qui pourtant utilisaient largement la dissimulation de leurs valeurs sous une fausse objectivité. Petit big up à Nathalie Hennig. Ouais. Voilà.
Alors pour conclure cette partie, finalement, qu'est-ce que la science peut-elle être neutre?
Bon, conclusion, arrêtez un peu de l'embêter, la science, elle fait ce qu'elle peut. Voilà. Mais la neutralité absolue est une illusion. Appelons un chat, la neutralité axiologique n'existe pas. L'exigence qu'on doit formuler si on suit Max Weber sans le trahir, ça changera, c'est la nécessité d'affirmer explicitement les valeurs qui portent notre discours et de ne pas se cacher derrière une position de pseudo-neutralité. Écoutez, Couleur du monde sur Calais de ma radio, émission mensuelle consacrée ce mois-ci à la science, à une grande interrogation. Est-ce que la science peut-elle neutre? Est-ce qu'il existe une science neutre? Et on vient d'écouter Billie Eilish. Oh là là, ça me rajeunit ça. Billie Eilish, c'est ma fille qui était fan de Billie Eilish. Longtemps, j'écoutais Billie Eilish. Au bout de 30 secondes, je m'endormais. C'est fou. Et un jour, j'ai eu l'illumination. J'ai réussi à aller au bout des chansons de Billie Eilish. En tout cas, celle-ci, elle s'appelle Oxytocine. C'est une hormone et on va en parler. Hein, Edouard, notre invité. Hein, donc,
ne spoil pas.
Voilà, je ne spoil pas, mais Edouard va en parler.
Galade.
Les couleurs du monde.
Et donc, c'est à notre invité Edouard, notre prof de science à nous, de prendre le lead pour une troisième partie où, alors déjà, j'ai bien cassé le moral à tout le monde en disant, ben ouais, c'est quasiment impossible d'être neutre. On va finir de casser le moral, hein, Edouard va finir le travail, puisqu'il va nous parler de, dans la méthode scientifique, les biais qui existent dans la science elle-même. Vas-y Edouard, casse-nous le moral.
Non, on va essayer quand même de montrer que, malgré le fait que la science se veut objective, elle a des biais, et ces biais se retrouvent à plusieurs points. Tu l'as très bien dit, dans la démarche. Puisque c'est la démarche qui permet de produire des connaissances, mais aussi dans les humains qui produisent cette connaissance. Ils font partie de la science. Donc, pour ça, on va se baser sur le travail de Odile Fillot. Odile Fillot, qui est ingénieure et chercheuse indépendante.
Ouais.
Alors, elle est connue dans nos rangs de prof de SVT pour avoir modélisé le clitoris en 3D.
Tout à fait. Okay, c'est un gros travail qui est énormément utilisé en France.
Et dans ma salle de classe.
Ouais, d'accord.
Je n'ai pas honte de le dire. Mmh. Et dans son livre, donc, Cerveau et stéréotypes de sexe, elle dresse le panorama précis des principaux biais qui affectent la production scientifique.
Ouais, tout à fait. Et c'est passionnant.
Alors, ces biais, on peut les classer en plusieurs catégories. Moi, je vais simplement les aborder en deux points. Donc, le premier point, c'est la faiblesse opérationnelle de la méthode scientifique. Et le deuxième point, ce sera de montrer que finalement, est-ce que la neutralité est possible?
Alors, ce n'est pas la faiblesse, plutôt les faiblesses. Hein, d'accord, parce que globalement, elle tient le coup, mais elle a des points de faiblesse.
Les points de faiblesse.
Cette méthode.
Alors déjà, premier point de faiblesse, ça va être les biais dans la production des études.
Ouais.
Alors, est-ce que vous connaissez déjà le fondement de la démarche? On l'a déjà dit. C'est
Vas-y, redis-nous.
C'est faire une expérience, interpréter cette expérience.
C'est l'OERIC qu'on a évoqué tout à l'heure.
Voilà. D'accord. Et une fois qu'on a fait OERIC, c'est bien joli, mais il faut répliquer cette expérience.
Ouais, voilà.
Si vous ne répliquez pas, ça n'a pas de valeur.
Une seule étude, c'est bon, c'est comme une hirondelle, elle ne fait pas le printemps.
Ça, ça suffit pas.
Il faut répliquer.
C'est ça. Eh ben, est-ce que vous connaissez, par contre, le problème majeur des études en biomédical aujourd'hui, c'est qu'en fait elles sont très peu répliquées.
Ouais. Et je vais te dire, en économie c'est pareil.
D'accord. vous avez une idée du chiffre?
Non, vas-y.
60% des études, d'après Odile Fillot, ne sont jamais répliquées.
Oh. Ouais. Donc ami de la vérification, au revoir.
Voilà, et souvent parce qu'en fait l'étude de base est nulle.
Ah oui, en plus.
Donc il n'y a rien à en tirer, il n'y a rien à en
répliquer. Ah oui, c'est pas qu'on ne cherche pas à les répliquer, c'est on les a testé, mais ça marche pas.
Mais ça marche pas.
Ah, donc ces 60%, en fait, sont fausses au
sont
départ.
Fausses. Ouais,
ah
ça.
oui, j'avais pas compris. Ok, pardon. Autant pour moi.
Donc cette crise de la réplication, elle remet en cause la robustesse des résultats. Il faudrait déjà tester et puis retester.
Ouais.
Ça demande du temps, ça demande de l'argent.
De l'argent surtout.
Ouais. On en parlera après. De l'argent.
L'argent.
Voilà. Deuxième point dans la faiblesse opérationnelle, c'est l'interprétation des données.
Bien sûr.
Le I de l'interprétation. Il peut exister un décalage important entre ce qui est observé et ce qui est interprété.
Exactement.
Et qui interprète? Les scientifiques.
Oui.
Les scientifiques sont influencés par leurs propres attentes. Ils peuvent surinterpréter des résultats ou des données, ou leur donner une portée qu'ils n'ont pas.
Ils ont très envie que ça marche, leur étude.
Ben oui, le mec, ça fait 10 ans qu'il travaille sur la cellule
Publier pour dire que ça marche pas, c'est pas fun. Hein.
Ah non, c'est pas fun. Et l'exemple qui illustre le mieux ces deux biais, le biais de validation et le biais d'interprétation, c'est l'ocytocine.
L'ocytocine de Billie Eilish.
Alors, l'ocytocine, ce n'est pas l'hormone de l'amour ou de l'attachement que les femmes produisent au moment de l'accouchement?
C'est ce qui se dit dans les médias.
Alors, tu serais à l'origine de l'instinct maternel, c'est ça?
Ouais. Bah, en fait, il y a deux choses dans ta phrase. C'est une hormone, ok.
Ouais, ouais.
Elle est produite par les femmes allaitantes, ok.
Ouais.
Mais est-ce qu'elle est vraiment à l'origine de l'attachement?
Voilà.
Et bah, en fait, pas vraiment. Enfin. Il y a bien des expériences qui ont été faites chez le rat dans les années 70. Problème, ces études n'ont pas été répliquées.
Okay. D'accord, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à reproduire ce qu'affirmaient les scientifiques lors de ces premières études.
Et on n'a même pas cherché à le faire.
Ouais.
Et en plus de ça, les chercheurs qui ont travaillé sur ces études sur les rats n'ont même pas réussi à expliquer que c'était bien l'ocytocine qui produisait l'instinct maternel.
Et pas
puisque des femelles qui n'avaient pas eu de petits...
Ouais.
ont développé un instinct maternel.
Ah ouais, donc
elles ne produisaient pas d'ocytocine.
Donc elles ne valent rien, ces études.
compliqué. Mais il a suffi que des scientifiques baignant dans cette croyance et une couverture médiatique un petit peu trop rapide fassent en sorte que ça se développe et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Okay.
Donc on a beau être scientifique, on peut être amené à transmettre des croyances sous forme déguisée sous un discours de scientifique.
Oui, parce qu'on n'est pas allé vérifier.
Voilà, ok, très bien.
Tu parlais de flemme tout à l'heure.
Voilà, la flemme aussi touche les scientifiques.
Voilà, et de manière plus générale, un troisième point sur la démarche, ben, ça peut être la méthodologie dans son ensemble. La méthodologie, dans un article scientifique, elle est expliquée.
Oui,
tout à fait. Sauf qu'en fait, il faut avoir accès à l'article.
Ouais.
Il faut le lire, c'est compliqué.
Oui.
Et donc, même moi, je n'ai pas accès aux articles scientifiques, il faut payer.
Ah oui, en plus c'est payant, donc on ne va pas payer à chaque fois qu'on veut consulter.
C'est ça, donc on lit souvent l'abstract, le résumé.
Voilà, le résumé.
Ouais. Et on n'a pas la méthodologie, on n'a pas les résultats. Donc en fait, ça favorise la diffusion d'interprétations et de messages erronés. Et en plus de ça, il y a même des scientifiques qui pipotent les abstracts.
En plus.
Voilà. Et donc, tout à l'heure,
on casse le moral à tout le monde.
Donc, entre ça et les médias que je vous disais peuvent prendre une information et l'amplifier en la déformant, on va renforcer des mythes, des stéréotypes, des connaissances infondées.
Voilà. Voilà. Reviennent par la fenêtre les valeurs, les croyances des scientifiques.
Tu pourrais nous donner des exemples de ces mythes dont tu viens de parler ?
Alors, moi, j'adore les neuromythes.
Ouais.
Ah, bah oui. 21e siècle, on est en plein dans les neuromythes, c'est sûr.
Alors, parmi ces neuromythes, il y en a un qui date un peu, mais voilà, qui est bien connu, selon lequel les femmes et les hommes n'utilisent pas les mêmes parties de leur cerveau.
Ouais.
Les médias avaient titré « Les femmes et les hommes pensent différemment
». Bien sûr.
Bah oui, en fait, mais ils se sont basés essentiellement sur le résumé. L'abstract et les quelques fameuses images publiées. Pourtant, des dizaines d'études ultérieures, deux méta-analyses ont démontré qu'il n'existait pas de différence significative.
C'était conneries et compagnie.
Ouais.
Donc, sur ce point, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes.
D'accord.
Malgré cela, le mythe s'est répandu.
Ouais.
Il continue d'être cité. Il fait partie des croyances sociales.
Ouais. Et donc, l'ocytocine, c'était une forme de mythe également. Les vertus qu'on lui prête, c'est une forme de mythe.
Les vertus qu'on lui prête, tout à fait. Et donc, si ces sujets sur les neuromythes et sur les hormones aussi vous intéressent, je vous renvoie vers un autre livre, celui d'Elena Pasquinelli, pardon.
Pasquinelli.
Oui, italienne, oui. D'ailleurs, elle passe très bien à la radio, une très belle voix. Mon cerveau, ce héros, donc son livre dans lequel elle fait la part entre croyances et connaissances sur les neuromythes.
Ok, très bien.
D'accord.
Et enfin, on en arrive aux publications qui ne sont pas en reste. Tu l'as dit, il y a une force dans la recherche qui est celle de la relecture par les pairs.
Ouais. Oui.
Bon, et ben parlons-en de cette relecture par les pairs.
Vas-y, casse-nous le moral.
Déjà, en fait, elle est loin de garantir la qualité de l'étude. Parce que les reviewers ne vérifient ni l'authenticité des données, ni la pertinence, ni la justesse des calculs.
Ils font une lecture rapide,
un peu
transversale.
Beaucoup. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne sont pas payés.
Déjà, ouais, voilà, donc je comprends.
Et en fait, on peut demander, les revues scientifiques peuvent demander à n'importe qui. Donc on ne vérifie pas le niveau d'expertise.
Ah oui, on ne sait même pas si le pair en question a vraiment le niveau de compétence nécessaire pour juger de cette étude.
Normalement, oui.
Ouais.
Mais entre la personne qui est mal payée et qui est moins compétente, par exemple, sur des sujets très précis, ce matin, je lisais dans le train.
Prenez le train, plutôt que les voitures.
Ouais,
moins d'émissions de CO2.
Et du coup, une interview de Guillaume Cabanac, qui est professeur d'université, qui disait qu'en France, sur certains sujets, enfin dans le monde, pardon, sur certains sujets, vous avez deux spécialistes.
Ah oui, oui effectivement.
Et vous avez 1000 articles par jour qui sont produits. Comment vous voulez que deux...
Donc, ce n'est pas ces deux spécialistes qui font...
Non, ils n'ont pas que ça à foutre non plus.
Donc, quand je parlais du publisher perish tout à l'heure, en fait, parfois, peu importe la qualité de l'étude et peu importe la qualité de la revue scientifique dans laquelle est publié le papier, il faut publier.
Ouais, tout à fait.
Du coup, dans ce cas-là, on a le problème de ce qu'on appelle des revues prédatrices qui acceptent, moyennant finance, un papier sans s'embarrasser de relecture.
D'accord, C'est des pseudo-revues scientifiques, en gros. Elles ont une apparence, mais en fait, elles gagnent leur thune en acceptant de publier n'importe quoi contre monnaie sonnante et trébuchante.
C'est tout à fait ça.
D'accord.
Donc, je vous mettrai aussi le lien vers l'article de Guillaume Cabanac qui est extrêmement intéressant.
Et on mettra aussi le lien vers le livre et l'émission d'Odile Fillot que tu as utilisé.
Très bien. Ensuite, la méthode scientifique peut s'ouvrir de biais méthodologiques.
Ouais.
Bon, là, c'est assez simple. Il faut quoi pour faire une étude ?
Des gens.
Oui, des gens. Et donc, on va les recruter. Et on va les recruter où ?
Dans la rue ?
Ça dépend. Ça va dépendre. Si vous voulez tester contre un cancer, vous n'allez pas les recruter
dans la rue.
Vous allez faire des échantillons. Et ces échantillons souffrent de biais, notamment des biais de recrutement. Si vous voulez faire une étude sur l'homosexualité et que vous vous rendez dans un bar gay,
ouais,
bah, vous n'allez pas avoir une...
Vous avez certains types très précis d'homosexuels et pas un échantillon représentatif de toute la population.
De la, toute la population.
Ouais. Ouais. Ouais, on donc, est d'accord. Là, ils auraient besoin des sociologues quand même, hein, tous ces amis des sciences dures.
Oui,
mais bon,
oui.
Peut-être qu'ils font ça pour aller au plus vite. Hein.
Ben, au plus vite, au plus simple, et on oublie en fait ces biais-là.
Ouais.
Nous, moi, en tant que scientifique, j'oublie la sociologie.
Oui, bien sûr.
Donc, ces biais-là, biais de recrutement, un autre biais qui est rigolo, c'est le... Enfin, rigolo.
Entre guillemets.
Spécifique. Entre guillemets, qui est très spécifique, c'est ce qu'on appelle le biais d'attrition. C'est quand vous avez des participants qui disparaissent de l'étude.
Ah ouais, d'accord, ok. Parce que les résultats individuels de ces participants sont un petit peu gênants pour la cohérence de l'ensemble.
Ça peut être ça.
Ça peut être ça.
Ça peut être le patient qui meurt en pleine étude.
Ça me rappelle du coup les études de Raoult, justement.
Exactement. Parlé, hein. Bonjour Didier Raoult, 2020.
Il y a six
trois études bidons.
Oui, ils ont six patients qui ont quitté l'étude et qui ne sont pas comptabilisés. Pourquoi, Edouard?
Il y en a un qui est rentré chez lui parce qu'il avait mal à la tête.
Le pauvre.
Il y en a un qui est rentré en réanimation.
Ok.
Il y en a un qui est mort.
Voilà. Voilà.
Et bizarrement, si vous enlevez des patients qui sont des cas graves, magie, vos résultats sont
meilleurs. Ça fausse tous les résultats, évidemment, on est sur des résultats mensongers, faut appeler un chat un chat.
Voilà. Et enfin, vous avez un biais dû au hasard, il se peut, et là on revient à la sociologie, que votre échantillon ne soit pas distribué aléatoirement.
D'accord. Ouais, okay.
Et là par contre, on a besoin de répliquer des études, on en revient à la réplication.
En fait, histoire de réplication, distribution aléatoire, il faudrait avoir des quantités, des tailles d'échantillons très importantes, et ça c'est très difficile.
C'est ça. Et donc on a du mal. Hein.
Ouais, bien sûr.
Parce que ça demande de l'argent, et on va en parler en dernière partie. J'aimerais quand même vous parler des biais cognitifs.
Vas-y. Okay.
Donc les chercheurs, en sont conscients ou non, peuvent sélectionner dans la littérature scientifique uniquement des éléments qui vont les intéresser.
Ouais, bien sûr, ça s'appelle le...
Cherry picking.
Voilà.
La fameuse cerise.
Cherry cerise en anglais pour les auditeurs qui ne parlent pas anglais.
Donc ça conduit à une vision partiale et non représentative de l'état des connaissances et ce qu'on appelle le biais de confirmation.
Eh ben ouais.
Oui. On croit selon nos convictions. Et tu nous disais,
on va picorer que celles qui nous arrangent, quoi.
C'est ça. Et quand tu nous parlais d'arrêt dogmatique, c'est ça en fait. C'est on s'arrête à ses croyances.
Voilà.
Et dans ces domaines-là, notamment où les enjeux sociaux et idéologiques sont importants, comme la question du genre.
Je sens que tu vas nous parler de la théorie du genre.
Bon. Disons-le d'emblée, cette théorie n'existe pas.
Ouais.
Il y a bien des études sur le genre, il y a bien des études indépendantes, mais il n'y a pas de modèle unifié qui expliquerait les différences.
Tout à fait.
C'est une construction idéologique qui vise à présenter les recherches sur le genre comme une entreprise militante opposée à un ordre naturel.
Mmh. Voilà, exactement. On est dans le discours classique, effectivement, que Trump est en train de pousser très fort à grands coups de bâton.
Très fort là-dessus. Et récemment, les neurosciences et la neuroimagerie ont été appelées à la rescousse par les groupes défendant l'existence supposée d'une théorie du genre.
D'accord.
On voit dans le cerveau des différences.
Ah ouais, d'accord, ok.
Mais on vient...
Ils disent, on voit dans le cerveau, il y a des différences, donc c'est conneries ce que vous dites.
Voilà. Et en fait, l'IRM ne donne pas à voir le fonctionnement du cerveau.
Mmh. D'accord.
C'est une interprétation de ce qu'on voit, fondée sur des hypothèses.
Okay. Ouais,
je devrais y passer un quart d'heure, j'en ai pas. Je vous prie de me croire et d'aller voir un petit peu comment fonctionne une IRM. Mmh. Et ensuite, le cerveau est un organe plastique, dont les différences observées aux différents instants ne sont pas nécessairement d'origine biologique.
Alors,
d'accord.
Mais vu ce que tu as dit déjà avant, si ces études sont très médiatisées, sont surtout surinterprétées, ça donne quand même une connaissance biaisée, finalement.
Oui, et du coup, il faut être très prudent. La prudence épistémologique, c'est un de ces points.
Mmh.
Et si vous entendez les neurosciences ont dit que, on a dit que...
Déjà, ça sent pas bon.
Méfiez-vous. Au mieux, l'explication est simpliste. Au pire, c'est totalement fallacieux.
Ouais.
Donc, allez lire le bouquin d'Elena. Et deux, écoutez le neuropsychologue Albert Munkeberg.
Ah oui, qu'on voit souvent sur Internet. Il est bien à l'oral.
Ouais, il passe très bien. Il explique très, très bien comment on peut se servir des neurosciences pour faire dire ce qu'on veut.
Alors quand même, pour être un peu positif, est-ce qu'il y a des outils pour limiter les biais, pour renforcer la robustesse scientifique?
Oui, bien sûr. Donc, on l'a dit, la réplication indépendante des résultats, c'est un des premiers points.
C'est la base, nécessaire.
Nécessaire. La méta-analyse regroupe des analyses de données chiffrées et on refait. Et la publication des données brutes et des protocoles détaillés.
Ok, d'accord, très bien. Est-ce que tu en as terminé, mon cher Edouard?
Sur ça, oui. Et
d'accord.
Donc, Okay. On va essayer de, dans une dernière partie, d'arriver à montrer que est-ce que la science peut assurer une neutralité ou pas.
Vas-y, on t'écoute. Tu vas avoir le dernier mot.
Alors, du coup, les connaissances, on l'a dit, en fait, elles sont politiques par le fait même d'exister.
Totalement.
Et donc, il y a une alliance, un mariage de force ou de raison entre la technique et le politique.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que, en fait, les scientifiques, il y a une dépendance, tout simplement, au financement.
Bah oui, bien sûr.
On en parlait.
Ils n'ont pas de financement, ils ne peuvent pas bosser.
Donc, ici, ils ne peuvent pas bosser. Donc, l'État français et l'Union européenne investissent massivement dans la recherche. Mm-hmm. Pour donner un chiffre, c'est 25 milliards d'euros supplémentaires à l'horizon 2030.
Ouais.
Okay. Mais ces fonds sont fléchés sur des programmes thématiques et des objectifs stratégiques. Mm. Donc, les pouvoirs publics décident. Mm. Ce qui limite grandement l'autonomie des laboratoires et les axes de travail.
Bah oui, bien sûr.
S'ajoutent à cela des financements des cofinancements privés d'entreprises, de fondations, de fonds publics.
Tout à fait, qui ont elles aussi leurs agendas en termes de priorité.
Et qui orientent toujours la recherche fondamentale au détriment de la liberté des chercheurs.
Mmh.
Donc cette logique est déjà critiquée dans le système français. Elle favorise la compétition au détriment de la stabilité et de la liberté de continuer la recherche fondamentale.
Ouais, puis on peut dire dans le système international, je veux dire, tous les pays, la recherche est touchée par ce problème dans tous les pays.
Ah oui.
Ouais, c'est pas spécifique à la France.
Et quand le président Macron annonce recruter, entre guillemets, les chercheurs américains, en insistant sur la liberté de recherche et l'indépendance scientifique.
Oui, on comprend donc que c'est très, très, très relatif, cette histoire de liberté.
Voilà. Donc, la méthode scientifique est loin d'être infaillible, on l'a dit.
Ouais.
Elle est traversée par de nombreux biais et des faiblesses.
Ouais.
Et tout ça tient parfois, essentiellement à la nature humaine des chercheurs, aux contraintes institutionnelles et financières et aux enjeux sociaux et politiques qui traversent la société.
Très bien.
Donc, il faut appliquer, et là ce sera ma conclusion, une vigilance critique à la réplication des études, favoriser le dialogue interdisciplinaire,
on l'a dit,
entre les sciences dures
et les sciences molles,
et la sociologie. Et
la sociologie, par exemple.
Assurer une transparence, et tout ça sera le meilleur rempart contre les dérives.
Okay.
Tout à fait. Donc, rien ne vaut qu'une méta-analyse pour se dire oui, c'est du solide. Si ce n'est pas de l'ordre de la méta-analyse, on peut douter. Bon, après, la méthode scientifique, on ne va pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça reste quelque chose. Une ligne de conduite qui nous apporte quand même des éléments de connaissance bien supérieurs à ce que le Nanar et Bébert peuvent nous dire au Café du Commerce.
Tout à fait. Et donc, je vous renvoie au projet Horizontaire dont j'ai parlé au tout début, qui porte ce message.
On mettra tout ça dans le podcast.
De garder une objectivité et une positivité dans la recherche. Mmh.
D'accord, très bien. Eh bien, auditeurs de Calade Radio, voilà notre tour d'horizon sur la question de la science, objective, neutre, etc. etc. De quoi ruminer pendant tout l'été Édouard, merci. Jean-François, merci.
Merci à tous.
Passez un bon été.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.